Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Vortex et Rotative.
Et on est sur Radio Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
Aujourd'hui, on vous parlera du livre L'incivilité des fantômes de River Solomon, paru dans la traduction française de Francis Guévremant en 2019 aux éditions Les Forges de Vulcain. L'incivilité des fantômes se déroule à bord d'une sorte de vaisseau-monde, le Matilda, qui parcourt l'espace depuis plus de 300 ans en quête d'une nouvelle planète habitable. On ne sait pas très bien pourquoi les humains ont dû partir, mais la Terre était devenue inhabitable. Ce type d'arche générationnelle est souvent utilisé dans la science-fiction pour observer une société humaine à une échelle réduite et en circuit fermé. Ici, River Solomon met en scène une société extrêmement patriarcale, raciste et hiérarchisée qui rappelle les sociétés esclavagistes sur le continent américain et les Caraïbes au XVIIIe. Il y règne une sorte de théocratie, un système autoritaire et brutal basé sur un ordre religieux. Le Matilda, dont le nom fait écho au navire négrier Clotilda, considéré comme le dernier à avoir transporté des esclaves aux États-Unis en 1860, est un vaisseau gigantesque, abritant aussi des espaces cultivés tels des champs ou des parcs. Les hauts ponts sont réservés à l'élite, c'est-à-dire aux blancs riches. Plus on descend d'abord vers les ponts intermédiaires où chacun est à la fois le dominant ou le dominé d'un autre, puis vers les ponts inférieurs où sont parqués les habitants et habitantes noirs, réduits à l'état d'esclaves et condamnés au travail dans les champs, vivant dans des dortoirs partagés et subissant les violences quotidiennes et arbitraires d'une armée de gardes tous plus ou moins sadiques. Au moment où démarre le livre, le chauffage a été coupé sur les bas-ponts, dégradant considérablement encore les conditions de vie qui étaient déjà déplorables. Aster, la protagoniste du livre, vit dans les bas-ponts. Depuis la disparition de sa mère peu après sa naissance, elle est orpheline. Aster a une identité genrée et sexuelle qui n'est pas vraiment définie. On pourrait la qualifier de non-binaire sans que ce soit nommé ainsi. Dans le temps que lui laisse le travail forcé au champ, elle s'est auto-formée en soins et en botanique. Elle a aussi appris la médecine avec le chirurgien général du vaisseau, Théo, qui vit dans les hauts-ponts et bénéficie de privilèges extraordinaires. Mais comme il est métis et considéré comme n'étant pas assez viril, sa position parmi l'élite du vaisseau a aussi un côté précaire, car elle dépend du moins en partie du bon vouloir du souverain en place. La relation complexe de Théo et Aster s'approfondit, et celui-ci lui demande de l'aide pour soigner le souverain Nicolae. Au même moment, Gisèle, son amie la plus proche, lui révèle que le journal intime de sa mère est écrit en code et contient des informations sur ses recherches. L'enquête qu'Aster va alors mener est une course contre la montre, car le nouvel aspirant à la souveraineté n'est autre que le lieutenant qui a Aster dans son collimateur et qui n'hésitera pas à s'attaquer à toutes les personnes qui lui sont chères pour la faire souffrir. Existe-t-il un lien entre les coupures d'énergie d'il y a 25 ans et maintenant? Ont-elles à voir avec l'étrange maladie du souverain? Est-ce un concours de circonstances si elle coïncide avec la disparition de la mère d'Aster? Et comment Aster fera-t-elle face à la violence du pouvoir? On va pas vous en dire bien plus ici pour ne pas spoiler. Voici ce que déclare River Solomon à propos de son propre roman.
La SF est une façon d'explorer des choses réelles qui nous affectent tous. Il y a des quartiers noirs et pauvres aux États-Unis qui n'ont même pas l'eau courante, où la violence policière est présente, où la violence tout court est présente. Ce qui m'intéresse en invitant le passé dans ce décor futuriste, c'est de montrer qu'on ne peut pas y échapper. Le Matilda en est la parfaite métaphore. « River Solomon se reconnaît du courant afro-futuriste, un courant esthétique et littéraire. Et Yale est afro-descendant et vit aux États-Unis. Elle se définit comme une personne trans non-binaire et utilise le pronom « they » singulier. C'est un pronom qui n'est pas marqué au niveau du genre et qui n'a pas vraiment d'équivalent en français. Alors même si l'usage du féminin va à l'auteur, j'ai choisi d'utiliser le pronom « Yale » qui est aussi utilisé dans son roman « L'incivilité des fantômes » pour traduire le fameux pronom « they ». Sur différents sites, Yale se définit avec ces termes. River Solomon est une Gwyn, une anarchiste, une fan de Star Trek, une Butch, une communiste, une bête monstrueuse, une exilée, une féministe, une guérisseuse, une mère, une fille, une diabétique, un canif, une loque, et une réfugiée de la traite d'esclaves transatlantiques. River Solomon est diplômée en études comparatives raciales et ethniques et est aussi diplômée en écriture créative. Yale travaille en tant que sensitivity reader pour donner des conseils à d'autres autrices, notamment pour aborder des sujets sensibles comme le racisme, le validisme ou le patriarcat. Aussi, Yale est atteinte de troubles autistiques et c'est une réalité qui ressort dans ses récits. Alors le livre dont on va vous parler aujourd'hui, An Unkindness of Ghosts, L'incivilité des fantômes en français, c'est son premier roman. Et il a reçu en 2018 le prix Firecracker du meilleur roman. Et puis il a aussi été nommé au Hurston Wright Legacy Award du meilleur premier roman, qui est un prix qui récompense les écrivains noirs depuis 2001. Et aussi, il a été nommé au prix Astounding du meilleur nouvel écrivain. Alors son deuxième roman, The Deep, Les Abysses en français, est élu meilleur livre LGBTQ de SF Fantasy Horror au Lummy Awards. Il est sélectionné pour le prix Hugo, le prix Nebula et le prix Locus pour le meilleur roman court. Son troisième roman est à paraître aux États-Unis, Sorrowland, et n'a pas encore de titre en français. River Solomon publie aussi son travail et ses nouvelles dans de nombreuses revues. On va maintenant vous lire un extrait du livre qui est le début du roman.
Aster retira de sa trousse deux scalpels pour les faire tremper dans une solution désinfectante. Ses doigts tremblaient à cause du froid et elle peinait à tenir ses instruments. Ils lui échappèrent et tombèrent avec un ploc disgracieux dans l'épais liquide. Dans 10 minutes, elle allait amputer le pied gangréneux d'une enfant. Il fallait absolument qu'elle cesse de frissonner. Était-ce donc cela, l'hiver? Une faible lumière résulta de la réaction chimioluminescente entre du peroxyde, de la teinture orange et de l'ester, éclairait la salle d'opération improvisée. Sur le panté, ils appelaient ces lanternes de fortune des étoiles en pot. Aster se demanda où ils avaient bien pu dénicher du peroxyde sans parler de l'ester d'oxalate de phényl. « Tu n'as qu'à la secouer pour que les trucs à l'intérieur se mélangent, » dit Flick, dont le pied pourri reposait sur deux coffres posés l'un sur l'autre. « Regarde, tu as vu, tu as vu ?» Bien entendu, Aster avait vu. Flick ne pouvait-elle pas voir les yeux de sa jeune amie? Près de l'enfant, sur un panier en osier qui avait été retourné, reposait une pile de vieilles bandes dessinées. Sur le dessus, il y avait le numéro 19 du règne de l'impératrice de la nuit. Sur la couverture, on voyait une femme nommée Mariam Santi, qui portait un trench coat beige et tenait à la main une sorte d'appareil cylindrique fait de métal et de bois. Quand elle pressait un minuscule levier avec son index, l'appareil propulsait une balle d'argent à très grande vitesse et elle pouvait ainsi blesser ses ennemis. « Fusil », se dit-elle à mi-voix. Ses lèvres, que le froid avait collées, se séparèrent. Quand elle était petite, elle appelait ses armes des fusibles, parce que ces appareils avaient le don de tout faire sauter dans une histoire, et parce que, la première fois qu'elle avait vu ce mot, elle l'avait mal lu. Le numéro 19 de l'impératrice de la nuit avait été l'un des préférés d'Aster quand elle était enfant. Elle l'avait lu, tout comme elle avait lu toutes les aventures de Mariam Santi qu'elle avait pu trouver sur le Matilda. Les vieilles bandes dessinées circulaient de pan en pan, de quartier en quartier. « Regarde, regarde ! On dirait que ça explose là-dedans quand je la secoue. Boum, boum, boum !» dit Flic. Elle, non, Yel, secouait la lanterne avec énergie. Aster se réprimanda de son erreur. Sur son propre pont, on employait le pronom féminin pour tous les enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Ici, par contre, on utilisait le pronom neutre « Yel ». Il ne fallait pas l'oublier. « Allez, allez, explose !» cria Flic en lançant l'étoile en pot dans les airs et en la rattrapant. « Sauf que ça n'explose pas vraiment, hein. Si ça explosait, il y aurait du feu, et le feu, c'est chaud !» Yel s'exprimait avec cette simplicité qu'avaient toujours les enfants persuadés de tout savoir. « Mon arrière-grand Miman, » continua-t-il, « elle dit qu'il y a déjà eu des coupures de courant avant. » Mais qu'elles n'ont pas duré longtemps. Après une semaine, c'était fini, et les bas-pontiens n'avaient même pas besoin de rationner l'énergie. Pas de froid. La peau marron foncée de Flic prenait la teinte du bronze à la faible lueur de l'étoile en pot. S'il y avait eu une vague possibilité qu'il réponde, et il n'y en avait aucune, Aster aurait appelé le chirurgien par radio. Il lui aurait donné un laissez-passer pour qu'elle puisse amener Flic jusqu'à sa clinique du pont G, ou en tout cas dans un endroit chauffé. Il aurait signé le document de son écriture cursive tout arrondie et il y aurait appliqué son magnifique sceau doré. Aster ne connaissait pas tous les gardes du Matilda, mais parmi ceux qu'elle connaissait, pas un n'aurait osé refuser de se soumettre à un ordre venu directement de l'incarnation de la main céleste. Néanmoins, Aster n'avait pas parlé au chirurgien depuis 3 semaines et demie, depuis le début des coupures de courant. Et pas de chirurgien, pas d'accès au haut pont. Pas d'accès au haut pont, pas de chauffage. « C'est comme une étoile, tu vois, » dit Flic. Et elle s'était emparée d'une lanterne qui, ayant été secouée, répandait sa chimioluminescence. Aster regarda la lanterne, puis Flic, puis de nouveau la lanterne. « Non, je ne vois pas. Désolée, » dit-elle. « Une étoile, c'est un tas de petits trucs qui se rassemblent et ça fait de la lumière, non ? Des trucs chimiques et tout ça. Et dans la lanterne, il y a des petits trucs qui se rassemblent pour faire de la lumière, qui sont chimiques aussi. Tu es d'accord, non ? Je suis d'accord, dit Aster, qui, ayant étudié les bases de l'astromatique, avait une certaine familiarité avec ces notions. Donc, c'est la même chose. Des trucs chimiques et des trucs chimiques, quand on les met ensemble, ça fait de la magie, dit Flic en tirant la langue. Aster ne pouvait qu'admirer la certitude de cet enfant, même si Yel disait n'importe quoi. Ton modèle n'est pas assez précis, dit Aster. Il est donc d'un point de vue scientifique inutilisable. Elle n'avait pas eu l'intention de s'exprimer aussi durement. Mais souvent, quand la fin de la journée approchait, elle perdait la capacité d'adoucir son comportement naturellement abrupt pour amadouer ses interlocuteurs. Si l'on faisait de ce modèle une théorie, on en viendrait à affirmer qu'une valise est identique à une bombe. Des sucres et une synthase entrent en réaction et créent la molécule du coton dont est faite la valise. L'oxygène entre en réaction avec la poudre à canon et provoque une explosion. Des trucs chimiques et des trucs chimiques, quand on les met ensemble, ça fait de la magie. Cette phrase pourrait ainsi décrire l'une et l'autre de ces propositions, alors que nous savons pertinemment qu'une valise et une bombe ne sont pas du tout la même chose. Flic cligna des yeux d'un air obstiné, tandis qu'Aster se creusait la tête pour trouver une explication que l'enfant comprendrait. « Ce que tu dis, en fait, c'est qu'un être humain et un chien, c'est la même chose, parce qu'ils ont des os et du sang. » « Les gardes, ils traitent tout le temps les goudrons de chien, » répliqua Flic, une main posée sur la hanche. Aster sursauta. Elle n'avait pas entendu ce mot depuis très longtemps, et il évoquait en elle un fort sentiment d'appartenance. On appelait goudron les habitants des ponts P, Q, R, S et T, pratiquement une nation à part sur le Matilda. « Il ne faut certainement pas se fier aux gardes pour distinguer le vrai du faux, » dit Aster. Les yeux de Flic étincelèrent et Yel prit un air faussement scandalisé. « On va te punir si tu dis des choses pareilles, femme. Tu ne sais pas que Nicolae est notre souverain, élu des cieux ?» Et que les gardes sont les soldats de Nicolae, et donc, par extension, les soldats des cieux. Les insulter, c'est insulter le divin, récita Flic d'une voix suraiguë. En ce cas, espérons que les cieux me laisseront le temps d'amputer ton pied avant d'infliger leur châtiment. Je serai marie de te voir subir les conséquences de mon sacrilège, bien que tu défendes avec chaleur la vertu et la morale. Aster sourit, malgré elle. Ou alors, on peut faire comme ça, si tu me fais une belle chirurgie. « Je te promets d'écrire une belle lettre à la garde et je vais les supplier de ne pas te punir. J'ai appris plein de beaux mots nouveaux et je sais déjà ce que je vais écrire. Tu veux que je te dise ? Un sourire malicieux sur les lèvres, Flic prit une grande inspiration et commença. « Cher monsieur, dit-il, à cause qu'il n'y a pas de chaleur ici dans les ponts d'en bas, à cause qu'il n'y a pas d'électricité, à cause que les bas-pontiens doivent rationner l'énergie comme nous l'a demandé notre souverain plein de noblesse et de prévenance, à cause qu'il y a eu des coupures de courant, à cause de tout ça, Aster a été la victime d'un bref épisode de délire provoqué par l'hypothermie et a prononcé des paroles inconvenables à votre égard. Elle va beaucoup mieux maintenant, alors ne vous en faites pas, elle ne recommencera pas. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments respectueux, humbles, déférents et serviles. Signé Flore Samuel, dite Flic. Flic éclata de rire et fit la révérence. « Alors, qu'en dis-tu » demanda-t-elle. Ce ton sarcastique, voire caustique, révèle clairement ton mépris absolu de notre garde sacrée. J'approuve, dit Aster en soufflant dans ses mains pour les réchauffer. Elle se frotta vigoureusement les paumes l'une contre l'autre. Cette conversation légère et badine l'amusait beaucoup, mais ne l'aidait pas du tout à trouver un moyen de lutter contre le froid. « Tu peux prendre mes moufles si tu veux, » dit Flic en posant l'étoile en peau qui elle tenait et en montrant ses mains émitouflées. « Avec ça, tu seras bien au chaud et tu pourras me couper, couper sans problème. Tu pourras me découper comme un jambon si tu en as envie. » Le regard d'Aster croisa de façon hésitante celui de Flic. « Je ne puis déterminer si cette offre est sincère. » Il devrait sembler évident à tout un chacun qu'il est impossible de procéder à une amputation en portant des moufles. Tu plaisantes, une fois de plus ? Oui, dit Flic. Il eut la décence de prendre un air contrit après ses facéties déplacées. Mais elles sont vraiment chaudes, ajouta-t-elle. Doublées de fourrure de lapin, ma grand-maman l'a écorchée elle-même. C'était quand il y avait encore des lapins sur le Mathilda. Des vrais lapins. C'est quand la dernière fois qu'on en a vu un ? Aster supposa que cette question n'attendait pas de réponse, car elle aurait été incapable d'établir la date exacte où un lapin avait été aperçu pour la dernière fois dans l'univers tout entier. J'ai toujours cru que les instants qui précédaient une opération chirurgicale étaient peu propices à l'amusement et à la frivolité, et pourtant la légèreté a marqué pratiquement l'ensemble de notre conversation. Aster cherchait toujours à apprendre de nouvelles méthodes de sociabilité. Flic haussa les épaules, ce qui eut pour conséquence de faire tomber la couverture qui lui couvrait les épaules. J'aime bien faire le contraire de ce qui est convenable. Ici, dans le quartier des Tilleuls, on a un proverbe. Seuls les faibles forment des souhaits. On s'en fiche de ce qu'on désire, parce que sur ce putain de vaisseau, rien ne marche, rien ne fonctionne. Je peux souhaiter tout ce que je veux, ça n'empêchera pas qu'il faut me couper le pied, ça n'empêchera pas qu'il n'y a pas de chauffage, ça ne tuera pas l'homme qui a trouvé que c'était une bonne idée de le couper, le chauffage. Ça fait 300 ans, depuis le jour où notre vieille planète est devenue invivable, ça fait 300 ans que ça ne sert à rien de former des souhaits. Quand on traverse l'espace entre les étoiles, il ne faut s'attendre à rien de bon. Ta maman ne t'a jamais appris ça ? La buée qui s'échappait de la bouche de Flic faisait penser à des fantômes exorcisés. Aster savait très bien que ces petits nuages n'étaient que des molécules d'H2O condensées. Mais elle ne put se retenir de tendre la main pour toucher l'un de ces esprits vagabonds. Chaque bouffée évoquait pour elle un ancêtre, même si les ancêtres étaient tous morts, avalés par le temps, tout comme cette grande maison de la création d'où le Mathilda s'était enfui.
On est toujours sur Radio Campus 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8 avec Vortex et Rotative. Et on est en train de vous lire un extrait du premier chapitre de L'incivilité des fantômes de River Solomon.
Évidemment, une fois de plus, il y aurait des milliers de choses à dire. Mais une des premières choses qui m'a vraiment frappée en lisant le livre, ce sont les personnages que River Solomon a créés. À côté des expressions genrées et de sexualité hors normes ou fluides, plusieurs personnages présentent des traits neuroatypiques. Aster est atteinte de troubles autistiques. Ce n'est jamais vraiment nommé comme tel, mais ça fait vraiment partie de sa manière de penser et d'interagir avec les autres. Elle porte des lunettes pour filtrer la lumière, elle a du mal à distinguer le deuxième degré, l'ironie, les métaphores. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle n'a pas pu voir que le journal de sa mère était écrit en code. Sa camarade des bas-ponts, Gisèle, est, comme Aster, extrêmement intelligente, mais c'est une tête brûlée, profondément marquée par la violence. Elle passe très rapidement de la tendresse à la violence, et elle semble prête à tout faire exploser, plutôt que de se rendre vulnérable en faisant confiance à une autre personne. On pourrait y voir des symptômes de stress post-traumatique. À ce sujet, River Solomon dit y elle-même
« Aster et tous mes personnages qui sont neurodivergents, d'une manière ou d'une autre, sont en grande partie tirés de ma propre expérience. Mais quand j'écris un personnage, je ne pense pas en termes de diagnostic ou d'identité. Je veux dire, j'écris moins dans la perspective qu'Aster soit autiste, mais plutôt dans la perspective qu'Aster vit les émotions de manière très profonde et intense. Aster a du mal à traiter des informations, ce qui peut créer la sensation de se faire submerger par le monde. »
J'étais vraiment touchée par cette manière fluide de raconter ces personnages, non pas comme une anomalie, mais comme une évidence qui, elles, existent ainsi. C'est une manière de les rendre vraiment forts dans un monde qui, tout au contraire, voudrait les annihiler. C'est d'ailleurs aussi marrant que sur pas mal de blogs de SF plutôt classiques, que je soupçonne en partie d'être écrit par des mecs cis hétéros, les gens habitués aux récits d'aventures dans l'espace avec des extraterrestres pas très normaux ou habituels, étaient nombreux à témoigner à quel point la lecture de l'incivilité des fantômes les avait déstabilisés par ce côté. Moi, ça m'a fait plutôt une bouffée d'air.
Moi, ma bouffée d'air, c'est le rapport à la médecine.
Si vous le voulez bien, je vais vous mettre sur le ventre. Vous me le permettez, Aster ? Elle aussi, elle avait cette habitude. C'était lui qui la lui avait apprise. Expliquer tout ce qu'on allait faire aux patients et toujours attendre une réponse clairement formulée, oui ou non, même si cela ralentissait l'auscultation.
Ces descriptions d'actes médicaux reviennent tout au long du roman et donnent un modèle intéressant. Et surtout, elles viennent casser les évidences de notre monde. L'évidence du médecin savant et de ses protocoles rationnels, efficaces et inflexibles, et l'évidence du patient ignorant qui ne peut ni savoir ni comprendre. Elles offrent aussi une vision plus complexe du Matilda. C'est une société hyper trash, mais il y a aussi des personnages qui construisent d'autres rapports sociaux. Pourtant, c'est pas vraiment une culture commune sur le vaisseau parce qu'on voit aussi des exemples de soignants qui sont vraiment horribles. Et sans que le sujet soit particulièrement développé ou très problématisé, ça montre que oui, c'est possible de soigner quelqu'un en faisant gaffe de lui demander si ça lui va des trucs de contact physique, de faire attention à l'intimité de la personne, de lui expliquer ce qui se passe, de faire que le ou la patiente ne soit pas juste un objet, un travail à réussir, mais aussi une personne concernée par ce qui lui arrive, avec le droit de décider des choses pour soi-même, le droit de savoir ce qu'on va lui faire, etc. Et c'est tellement rare dans notre société de rencontrer des professionnels de santé qui vont agir de cette manière-là que toutes les scènes entre les médecins et les patientes où les mots sont posés de manière claire et directe, avec un respect du consentement par exemple, ces scènes, c'est vraiment des moments de répit dans la lecture et c'est aussi des moments de répit pour le monde réel.
Et des soins, il en faut dans le monde que River Solomon met en scène. C'est un monde où la violence est omniprésente. Les habitants et habitantes des bas-ponts subissent des humiliations, brimades, coups et viols à longueur de journée, et plein de gestes du quotidien en sont marqués. Aster, par exemple, se met de l'onguent tous les matins pour amoindrir les dégâts au cas où elle se ferait violer. Mais les dégâts sont loin d'être juste d'ordre physique. Notamment à travers le personnage de Gisèle, mais pas seulement, River Solomon raconte comment la violence peut rendre malade au niveau psychique, que ces traumatismes peuvent aller jusqu'à détruire une personne, et que dans tous les cas, pour guérir, il faut déjà que ces violences cessent, certes, mais il faut en plus de cela des espaces, du temps, des gestes, de l'amour qui permettent de guérir, de se reconstruire. Sur le Matilda, C'est pas vraiment possible de trouver ces espaces pour guérir. Et River Solomon m'a vraiment impressionné par sa manière très fine et sensible de raconter comment les personnes en chient, comment cela affecte les relations qu'elles sont capables d'entretenir, comment parfois, pour s'affirmer dans un monde qui te détruit, il ne te reste que de tourner cette violence contre les personnes que tu aimes, voire contre toi-même.
Je voudrais avoir chaud tout le temps, comme quand je suis ici, et même plus chaud encore. Je veux être comme le feu parce que seul le feu est la vérité. Ou alors, je veux être comme une de ces marmites en fonte qu'on laisse sur le feu et qu'on retrouve au matin aussi brillantes que si elles avaient été en argent. Tout ce qui était resté collé, tout ce qui avait cuit a disparu, brûlé par les flammes. Gisèle se gratta un poignet noueux, comme si elle voulait arracher une croûte invisible. Elle avait beaucoup maigri cette dernière année et n'avait plus que la peau sur les os. « Je veux brûler, » ajouta-t-elle, « brûler et exploser. Je peux te donner un médicament, si tu veux, contre tes noires pensées. » Aster avait remarqué que Gisèle s'appuyait la main sur la poitrine, sans doute parce que son cœur battait à un rythme accéléré. Près de Gisèle se trouvait un pulvérisateur en verre, dont Aster se servait pour arroser ses semis les plus fragiles. Gisèle s'en empara et le lança jusqu'à l'autre bout de la cabine. « Je ne veux pas de tes médocs, de tes comprimés, de tes sirops, de tes poisons. Je ne veux pas que tu t'approches de moi. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue ici. » Comme on vient de l'entendre, la relation d'Aster et Gisèle est fortement marquée par cette violence. Il en est de même pour la relation qu'Aster a avec Théo. Mais ces relations aussi te spécifiques qu'elles sont marquées par des rapports de classe. Théo parce qu'il est haut pontien et Aster bas pontienne. Mais aussi avec Gisèle, car Aster a des privilèges grâce à sa relation avec Théo, ses laissez-passer et son savoir médical pointu. Et Gisèle lui reproche d'ailleurs d'une manière très directe.
Gisèle balançait ses jambes et ses talons heurtaient le classeur sur lequel elle était assise, mais elle cessa brusquement son mouvement. « Tu en es sûre? Tu en es vraiment sûre? Parfois, je me dis que tu es exactement comme eux. Tu parles comme eux, tu marches comme eux. Comme si tu te prenais pour une déesse. Et pourquoi? Il y en a beaucoup ici des toubibs et des guérisseurs, et ils n'ont jamais besoin de demander conseil à ton chirurgien. Tu n'as rien de spécial, même si tu as toujours sur toi tous ces laissés-passer débiles. » Aster racla des ongles la couture de la poche de son pantalon. Déjà effilochée, la couture se défit tout à fait. Elle était d'accord avec cette affirmation. Elle n'avait rien de spécial. Du moins dans le sens familier de l'expression qui supposait une équivalence entre différence et supériorité. Si elle était spéciale, c'était parce qu'elle était bizarre, tout simplement. Et elle l'avait toujours été.
Et ces rapports de classe viennent complexifier encore les relations, parce que l'amour que les personnages se portent est entaché d'une certaine manière par ces rapports de domination. Et même si Yael essaye de les dépasser, cet enjeu il va revenir régulièrement, surtout entre Théo et Aster, parce que la différence est violente. Théo fait partie de la sphère du pouvoir, même s'il en est un peu mis à l'écart. Il a des appartements luxueux, accès à des tonnes de choses, pendant que Aster vit dans une situation d'esclavage et d'oppression extrême. Alors, même si Théo essaye de faire profiter Aster de son statut, il ne peut pas faire disparaître les différences de leur position. Pas plus qu'il pourrait la protéger des violences ou lui épargner le travail sur les ponts agricoles. Alors, les violences sociales se répercutent et éclatent dans le cadre des relations interindividuelles. Et c'est un des enjeux de ce roman. Comment construire des relations de confiance, de solidarité, de complicité, des amitiés, malgré les différences de classe.
Voilà, on vient de vous présenter le livre « L'incivilité des fantômes » de River Solomon, publié aux éditions des Forges de Vulcain.
C'est un livre qu'on vous recommande vivement, mais on tient à préciser aussi que l'histoire racontée est vraiment hyper trash, et sans que la violence elle soit montrée très frontalement, elle est quand même omniprésente dans l'histoire.
L'émission est montée avec des extraits musicaux de Alpha Wesen.
Eh ben, au revoir et bonne fin de journée sur Radio Campus et Radio Dragon.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et rotative. sur Radio Dragon et Campus Grenoble.